On est pas très nombreux, on va t'entendre.
Oui. Alors, la rue Jean Rousse de 1917, et je vais faire une demi-heure. En introduction, un petit peu pourquoi on parlait dans le nouveau parti anticapitaliste, parce que donc je ne cache pas mon opinion, et puisque c'est moi qui fais le topo, j'en profite. Ma position, c'est que je ne voudrais pas que le programme du nouveau parti anticapitaliste dise la révolution russe, c'est un modèle sur ce qu'il faut. Pourtant, c'est mon opinion. Moi, je trouve que la révolution russe donne énormément d'enseignements. L'essentiel pour moi de la révolution russe, c'est un enseignement positif de ce qu'il faudra. Mais moi, je veux un parti plus large, alors je ne voudrais pas mettre ça dans le programme parce qu'on aurait, à mon avis, beaucoup moins de monde. Voilà, ça, c'est ma position. Cela dit, il faudrait absolument que dans les NPA, maintenant, mais aussi pendant des années, qu'il y a des débats sur la révolution russe. Je pense que c'est essentiel qu'on en discute, qu'on apprend là-dessus. Et je pense qu'il ne faut pas éviter la question. Et malheureusement, je pense qu'il y a une petite tendance à faire ça. Et même pour tout le respect que j'ai pour notre cher Olivier Besancenot, quand on lui demande est-ce que la NPA va être révolutionnaire, et il répond, ça va être révolutionnaire dans le sens contemporain. Pour moi, c'est éviter la question en disant quelque chose qui ne veut pas dire grand-chose. Et donc, je pense qu'il y a une tendance à éviter certaines questions. Alors, pourquoi c'est important la révolution russe? Parce qu'en réalité, on ne peut pas l'éviter. Quand on dit aux gens, voilà, vous avez vu la dictature du profit, ce que ça donne, nous, on voudrait que ce soit les travailleurs qui contrôlent la société. Vous parlez avec quelqu'un tout nouveau à la politique, dans les 5 minutes, il dit, on n'a pas déjà essayé ça. Ça n'a pas donné des dictatures sanglantes. On ne peut pas éviter de pouvoir dire pourquoi. Quand en Russie, la classe ouvrière a pris le pouvoir, et dans d'autres pays, à mon avis, ce n'est pas la classe ouvrière qui a pris le pouvoir au Cuba et en Chine, mais ils ont utilisé le vocabulaire communiste, et ils représentent pour la masse des gens le communisme. Il faudrait qu'on puisse dire pourquoi. On ne peut pas dire aux gens, ça a foiré, on croise les doigts, on espère que la prochaine fois, ça ne foirerait pas. Parce que nous, on veut convaincre les gens de passer une bonne partie de leur temps libre à militer pour notre société. On a intérêt à pouvoir leur donner des bons arguments de pourquoi ça pourrait marcher. En même temps, s'il y a dans le NPA et autour à gauche plein de gens pour dire « Oh, la révolution russe, c'est pas important d'en discuter aujourd'hui, tellement les choses ont changé », la droite, par contre, pas du tout. Ils ont produit des livres d'histoire pour prouver que la révolution russe et Lénine, depuis le début, comme disait Richard Pipes, qui a écrit un livre traduit en français, La révolution russe, et où il dit Lénine était habité toute sa vie par une haine indicible. Enfin, ça, c'est le niveau d'analyse. Et alors, de toute façon, toute cette idée que la révolution russe est une émanation de la personnalité de Lénine, qui était méchant, malheureusement. Donc c'est tout ce qui est le contraire de comprendre l'histoire pour contrôler l'avenir. Alors, je vais pas donner beaucoup de détails historiques. Je vais essayer de poser quelques questions clés. Mais d'abord quand même un résumé de qu'est-ce qu'ils ont fait. Je sais qu'il y a certaines personnes qui en savent d'ailleurs plus que moi. Mais bon, en février, en Russie, des grèves s'éclatent lors de la Journée internationale de la femme. Assez intéressant d'ailleurs parce que le parti bolchevique, en voyant un peu la démoralisation à l'époque, ou en tout cas en pensant que c'était pas un moment où ils pouvaient mobiliser là-dessus, avait donné la consigne de ne pas faire grève pour la Journée internationale de la femme. Mais il y a des usines textiles qui ont fait grève, qui ont envoyé des femmes frapper à la porte des autres usines, et on fait grève pour la Journée internationale de la femme. Et alors, plein de membres du parti bolchevique se sont retrouvés à part en nous demandant de la solidarité. Ah bon, allez, on y va. Alors, sans que le parti bolchevique le veuille, il y a eu une vague de grève sur cette question. Grande répression de la part des Cosaques. Je ne sais pas quelle est la différence entre un Cosaque et un soldat, mais bon, disons des soldats. Grande manifestation face à face, Cosaques, ouvriers et ouvrières, parce que ce sont les ouvrières qui l'avaient commencé, et ce moment merveilleux qui apparaît dans toute révolution réussie, les Cosaques refusent de tirer sur la foule. C'est toujours risqué, parfois ils refusent pas. Et de temps à autre, quand la situation est tellement désespérée, ça fait 3 ans qu'il y a la guerre mondiale, des massacres dans les tranchées, la vie de plus en plus difficile dans les villages, rien à bouffer, souvent, les Cosaques se disaient, merde, on n'a plus en commun avec eux qu'avec nos chefs, on refuse de tirer, le gouvernement chute, et on met en place un gouvernement provisoire sous Kerensky qui est fêté pendant quelques jours ou même quelques semaines comme voilà la révolution. On a déboulonné le tsar qui est là quand même depuis des siècles, c'est la grande fête, c'est impressionnant. Les marxistes un peu partout dans le monde sont un peu interloqués. La révolution la révolution socialiste, ça ne peut pas avoir lieu en Russie. Tous les marxistes le savent, ça ne peut pas être en Russie. Il faut que ce soit dans un endroit où il y a une majorité ouvrière. C'est l'Allemagne, c'est là où il y a des millions d'ouvriers, presque la moitié de la population, un peu plus. En Russie, il y en a 3 millions d'ouvriers, 160 millions de personnes. On ne peut pas avoir une révolution socialiste là-bas. Alors les marxistes, à l'époque, considèrent, c'est évident, le classe ouvrière, ça peut prendre un rôle dans la révolution, mais ce serait une révolution bourgeoise. Une révolution bourgeoise, ça veut dire qu'il y aurait un parlement, le droit de vote, des choses importantes, le droit de se syndiquer, la journée des 8 heures, donc plein de réformes, mais ça, c'est pas une révolution socialiste. La classe ouvrière ne contrôle pas la société, simplement, ils vivent un peu mieux, et bon, le tsarisme, c'était bien pire que la démocratie occidentale. Alors ça, c'est de la théorie. Alors après la pratique, il n'y avait que Trotsky pour dire « Ah non, on peut avoir la religion socialiste en Russie. » Il appelait ça, et je lui en veux, la théorie de la révolution permanente. Je trouve que c'est le titre le pire choisi pour une concept, parce qu'en fait, ça n'explique pas ce qu'il y a dedans. On pourrait dire la révolution ininterrompue, ce serait plus juste. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Le gouvernement provisoire, après le tsarisme, décide... quand même, on va poursuivre la guerre, parce que jusqu'à la victoire, c'est dans l'intérêt national, etc. Tandis que beaucoup de ceux qui étaient qui avaient fait chuter le gouvernement pensaient justement c'est cette guerre. Et après le temps de se stabiliser, ils augmentent le recrutement. Ils augmentent le recrutement. Ils utilisent la popularité indéniable chez les ouvriers de Kerensky et surtout certains de ses ministres. Pour augmenter le recrutement, envoyer encore plus de personnes aux tranchées. Mais en même temps que le gouvernement provisoire, il apparaît une situation que le terme technique, c'est double pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a le gouvernement provisoire, qui bien sûr n'est pas est extrêmement peu démocratique. Il y a des élections, mais c'est des élections où le droit de vote est très restreint, etc. Et il y a aussi les conseillers ouvriers. Les soviets, s'étendent comme une traînée de poudre, et en réalité, surtout dans les villes, le gouvernement ne peut pas faire grand-chose sans avoir la vie écrite du soviet, parce que sinon, les travailleurs, ils refusent de le faire. Donc, à certains moments, ils veulent des trains pour emmener des soldats, et si le soviet n'est pas content, ils n'y vont pas, ils partent par les trains. Alors, situation de double pouvoir, bien évidemment, ça dure jamais très longtemps. Il y en a un qui écrase l'autre à tous les coups. Mais le parti bolchevique, beaucoup de confusion là-dedans. Il y a toute une partie des bolcheviques qui soutiennent le gouvernement provisoire de façon très critique. Et le critique, ils disent, ouais, bon, c'est mieux que rien. Et alors, c'est au moment qu'arrive en avril, Lénine, il revient en Russie, il fait campagne dans la partie pour dire ce gouvernement provisoire, c'est pour continuer la guerre, c'est pour établir, pour renforcer le pouvoir de la bourgeoisie. Nous, on est contre, la révolution vient de commencer, il faut une deuxième révolution. La moitié de ses copains le traitent fou, mais il a réussi sur les 20 années précédentes à former un cadre, quelques milliers de membres du Parti bolchevique qui ont l'habitude du débat politique, l'habitude d'étudier la situation concrète et y réagir. Alors Lénine réussit, puisqu'il y a eu un débat démocratique dans le Parti bolchevique depuis le début, il y a une habitude de, voilà, on fait des textes, on s'argumente, on débat, on décide, et il réussit à convaincre toute une couche intermédiaire du Parti bolchevique que effectivement il faut une deuxième révolution, et ça devient la politique du Parti bolchevique. C'est très important parce que c'est pas absolument pas le cas. Parce que le stéréotype du parti léniniste, c'est que tout le monde faisait ce que disait Lénine. que dalle. Déjà, Lénine lui-même, c'était un indiscipliné, mais pas possible, un garçon qui n'arrêtait pas de menacer de démissionner quand il n'aimait pas les décisions. Le stéréotype du parti Lénine, ça n'a rien à voir. Et alors, voilà, il y a Lénine qui revient en Russie, il décide, le parti bolchevique décide qu'il est possible d'avoir une deuxième révolution socialiste, mais pas tout de suite, il faut attendre le moment où assez d'ouvriers sont convaincus. Et il y a beaucoup de hauts et de bas entre février et octobre, notamment ce qu'on appelle les journées de juillet. Les journées de juillet, les ouvrières de Petrograd, donc les plus radicaux, sont convaincus que c'est le moment. Il faut renverser le gouvernement parce qu'on veut, on veut la paix et on veut du pain. C'est quoi la troisième chose? Ah non, ça c'est après, c'est pour les paysans. Et ils se mettent en route des manifestations de centaines de milliers d'ouvriers armés dans la rue, hein, pour préparer une insurrection. Et le parti bolchevique, justement, ça c'est le parti difficile, hein. Le parti bolchevique a plus d'informations. Il sait que si l'insurrection a lieu à Petrograd, à ce moment-là, en juillet, Moscou va pas suivre. Toute une autre série de villes ne sont pas prêtes, je ne veux pas dire du point de vue technique, mais il n'y a pas assez d'ouvriers convaincus, et en fait, si on fait une insurrection dans une seule ville, hein, mauvaise pioche, on se fait écraser. Alors le parti bolchevique qui a été à la tête des ouvriers les plus radicaux, là, doit déployer toutes ses propagandes et tracts pour le dire de ne pas y aller. Ça, c'est beaucoup plus dur que de dire qu'il faut y aller. Alors ils font des compromis, ils disent, bon d'accord, on va avoir une grosse manifestation, mais sans armes. Il y a des camarades qui se cassent du parti bolchevique. Vous êtes des traîtres, vous êtes contre l'insurrection, toutes les engueulades auxquelles on a l'habitude à l'extrême gauche. Ça se calme. Il y a une grande répression parce qu'il n'y a pas une insurrection, mais il y a une énorme révolte trop grande pour le rapport de force. Il y a une énorme répression. Lénine est obligé de partir se cacher en Finlande. Heureusement, c'est pas bien loin. Ça fait partie de l'Empire russe à l'époque. Et il continue à donc suivre l'état de la conscience ouvrière. La guerre, les choses sont pires. Et le gouvernement essaie de faire appel à Kornilov, c'est un général d'extrême droite, pour écraser les soviets, parce que le double pouvoir, ça ne les convient pas, normal. Avec l'aide de la classe ouvrière organisée, Kornilov, il n'arrive pas à amener ses troupes parce que les trains ne marchent pas tout d'un coup. Et alors, le danger de Kornilov est écarté. Et c'est en octobre, donc en novembre vraiment, qu'il y aurait la deuxième révolution, donc la prise du palais d'hiver et la mise en place d'un nouveau gouvernement à dominante bolchevique avec quelques autres dedans. Au nom de la coordination des soviets. Des conseils ouvriers au niveau national. Assez intéressant le dernier débat là aussi, parce que Lénine à un moment pensait que le parti bolchevique avait tellement de soutien qu'on pouvait annoncer l'insurrection au nom du parti. Et c'est Trotsky qui lui a convaincu, non, on aurait plus large, on aurait plus de chance si on le fait au nom du congrès des soviets, qui sont en majorité bolchevique, mais il y a des anarchistes dedans, il y a des social-révolutionnaires, etc. Et donc, pour la première fois, il y a un parti ouvrier qui prend le pouvoir dans le pays où personne ne pensait que ça allait se passer. Et ça devient très rapidement un énorme espoir pour les opprimés et pour les travailleurs du monde entier. Prenons les groupes les plus opprimés. Très rapidement, liberté de divorce, liberté l'avortement, le droit à l'avortement, égalité juridique des homosexuels et hétérosexuels, 60 ans avant que notre bon pays démocratique en France a réussi à le faire. D'ailleurs, je n'ai pas la date en France quand l'homosexualité a été dépénalisée. Les paysans, c'est essentiel. Il y a 160 millions de paysans et 3-4 millions d'ouvriers. Alors, s'ils ne réussissent pas à mettre les paysans de leur côté, c'est fini. Ils réussissent en déclarant très très rapidement les terres des grands propriétaires doivent être divisées parmi les paysans. Tous les paysans, ils auront le petite ferme, et donc vont mieux manger, etc. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Ils sont accusés par un des autres partis d'avoir volé leur slogan sur la terre. C'est vraiment une réaction des petits partis qui n'ont pas réussi à changer le cours de l'histoire. Ils regardent ceux qui changent le cours de l'histoire. Ils disent, vous avez volé ce qu'on avait écrit sur la page 17 de notre programme. Voilà, le problème, donc, ça donne... ils arrêtent la guerre. C'est pas mal non plus. Ils publient les traités secrets. Donc tous les traités secrets, donc c'est complètement autre chose que les changements de gouvernement qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on voit un changement de gouvernement, parfois il y a des bonnes choses qui arrivent avec quelques réformes. Ça n'a rien à voir. Ils arrêtent la guerre, ils publient les traités secrets pour que les ouvriers, les travailleurs du monde entier puissent les lire. Et bien sûr, ce sont des traités, mais de dégueulasse, vous imaginez ce qu'il y a. Et alors, dans les pays à travers l'Europe et le monde, on met en place des organisations, des partis pour soutenir la révolution russe. Il y en a d'autres, les religions opprimées. En Russie à l'époque, il n'y avait que les orthodoxes qui avaient les pleins droits et les autres religions musulmanes étaient extrêmement opprimées. Une des premières choses que fait le gouvernement bolchevique, c'est les mêmes droits pour tous. Les nations opprimées, le parti bolchevique défend que les nations opprimées, de Finlande, de la Caucase, etc., c'est à eux de décider et ils ont le droit de déclarer l'indépendance de l'Union soviétique qu'on est en train de mettre en place. Quand on l'aide même dans le parti bolchevique, il y en a qui disent « Non mais, on ne peut pas leur donner le droit de l'indépendance, ce serait un nationalisme bourgeois, un nationalisme petit bourgeois. » Et c'est Lénine qui est le plus clair là-dessus, c'est non. Nous on veut une association volontaire des différentes nations, alors évidemment on essaie de le convaincre à ne pas se séparer, parce que plus ensemble on est plus fort, mais ils ont le droit, y compris de l'indépendance, et il y a Finlande qui déclare l'indépendance, quelques autres aussi, et il y en a d'autres qui décident de ne pas le faire. Donc ça, un petit peu... un petit portrait de ce que ça pouvait avoir de vraiment d'un lueur d'espoir pour le monde entier. En plus, à un moment, après 3 années de guerre, la Somme, Verdun, vraiment une des... Peut-être Victor Serge, quand il écrivait sur les années 30, 33, 36, il parle de minuit dans le siècle, mais c'est vrai que 1916, c'était pas mal dans ce genre non plus. Hein. Moi, j'ai plus de connaissances de l'histoire britannique. Alors, je sais que le premier jour de la bataille de la Somme, il y a 60 000 Britanniques de tués ou blessés. Alors, dans un jour. Hein. Alors, c'est une ambiance quand même assez déprimante par ailleurs. Alors, ça, c'est ce qu'ils savent faire. Ils mettent en place une des sociétés les plus démocratiques que l'histoire n'a jamais vues. D'ailleurs, ça dure un certain temps, jusqu'en 1928. Un membre du parti bolchevique, quel que soit son boulot, même s'il est prof de fac, il reçoit le salaire d'un ouvrier moyen. C'est ce qu'on va, bien sûr, Staline va, hein, tout ça. Mais c'est une petite, quelque part, ça devrait aller de soi. Cela dit, il n'y a aucun autre, on ne le voit pas ailleurs. Hein. Les journalistes en visite racontent, il y a beaucoup de récits de voyages, et il y en a, moi je connais deux cas des Anglais, des journalistes, pas de gauche, qui vont en Russie et deviennent communistes. Ils voient le truc, ils vont voir Lénine qui mange de la soupe aux choux comme les ouvriers. Ça les impressionne. Quelque part, ça ne devrait pas voir le président manger le même que son peuple, ça ne devrait pas impressionner. Mais on sait que ça n'existe pas, alors ça les a beaucoup impressionnés. L'armée rouge, extrêmement, complètement différente que les armées tsaristes ou que les armées l'Occident. Une énorme concentration sur le besoin d'éducation. Quand on recrutait des nouveaux soldats à l'armée rouge, on leur apprenait à tirer un fusil et à lire, et à discuter politique. Dans les trains qui les transportaient, il y a une salle de classe. Donc, un respect pour le soldat, parce qu'à l'époque, beaucoup plus qu'aujourd'hui, le soldat, mais pour les généraux et même pour les officiers, mais c'était des animaux, c'était du bétail. Ouverture de énormément d'écoles, de bibliothèques, de culture, tout ça. Et à travers le monde, les classes dirigeantes tremblent. Il y a toute une série de citations de Winston Churchill et de plein de grands respectables de ce monde qui disent c'est la fin de la civilisation, etc. Donc ça, c'est l'espoir. Malheureusement, il y a deux énormes difficultés. Première difficulté, il y a une vingtaine de pays étrangers qui envoient des armées pour écraser la religion. Manque de bol. Et alors, là où on aurait pu espérer qu'il y ait un petit temps pour construire une société différente, il y a besoin tout de suite d'organiser la guerre contre les armées qui envahissent, et contre les armées blanches, donc soutenues de l'étranger. C'est un signe de l'énorme soutien qu'avait le gouvernement bolchevique de la part du peuple, qu'ils ont gagné. Contre toute attente, les pays étrangers avaient plus de ressources, etc. Sauf qu'à l'intérieur de la Russie, et c'est pas pour dire qu'il n'y avait pas des atrocités, des conneries, des dégueulasseries faites aussi parfois par des sections de l'armée, oh, c'est une guerre, c'est pas joli. Mais les historiens qui ont regardé là-dessus, il n'y a pas de doute, quand l'armée blanche arrivait, c'était genre en fusil, tout le monde qui a jamais été dans un syndicat, etc., 10 fois plus sanglant que ce qui pouvait arriver de d'autres côtés. Donc premier problème, l'invasion et la guerre, qui réussissent à gagner, mais en épuisant l'économie du pays à un niveau extrêmement fort. La production industrielle en 21, c'est 30% que c'était en 1913. Même en 1913, ce n'est pas si impressionnant que ça non plus. Hein. Donc vraiment, détruire l'économie. Deuxième problème, donc, la paysannerie. La paysannerie, quand bien sûr l'essentiel des soldats dans la Première Guerre mondiale sont des paysans, hein, parce que c'est la grande majorité de la population. Alors là où la paysannerie était pro-bolchevique et pour le gouvernement, le gouvernement déclarait qu'il pouvait prendre la terre, et quand le gouvernement déclarait c'est la fin de la guerre, quelques années plus tard, quand les bolcheviques venaient chercher du grain dans les villages pour nourrir les villes, déjà les paysans étaient moins contents. Parce qu'il y avait un problème économique de fond, c'est que les villes et la classe ouvrière dans l'économie épuisée avaient besoin du grain de la campagne pour nourrir les villes. Et en échange, ils n'avaient que dalle à donner. L'industrie était détruite. Et alors, dans cette situation, le gouvernement bolchevique, ils avaient des choix un petit peu plus difficiles que ce que nous on a à faire dans le militantisme pour l'instant, hein, ça peut venir. Ils peuvent laisser mourir les villes de faim ou envoyer des soldats dans la campagne saisir le grain. Et ils ont fait le deuxième. Et pour moi, ils avaient raison. Mais c'est pas joli. Et quand on envoie des soldats dans les villes, les villages saisir le grain, c'est pas tous qui se comportent de façon correct, fraternel avec tout le monde. Et donc il y a toute une série d'erreurs, mais la centralité de la politique n'est pas une politique de faire la guerre contre la paysannerie. L'essentiel de la politique, c'est une politique de tenir. Alors ça a deux aspects. Le premier aspect, et c'est ce que disent les mines, c'est que le seul espoir, c'est une révolution dans un autre pays. Dit tout simplement, ce sont les tracteurs allemands qui pourrait convaincre les paysans russes de rester du côté de la révolution. Et alors, c'est la révolution en Allemagne, s'il pouvait marcher avec la plus grande classe ouvrière de l'Europe occidentale, qui peut produire ce dont on a besoin pour tenir, pour donner un exemple beaucoup plus impressionnant à l'étranger, parce qu'en Russie, ils ont impressionné le monde avec 30 centimes. L'Allemagne, c'est un pays riche, il était possible pour une révolution allemande réussie de vraiment soutenir la révolution en Russie et donc gagner la paysannerie durablement. Et comme nous le savons, je crois qu'on le sait, en 1919, en 1921, il y a la possibilité d'une révolution en Allemagne, il y a une situation qui aurait pu marcher, ça ne marche pas, à mon avis, surtout parce que les marxistes en Allemagne n'avaient pas développé le même type d'organisation, le même type de tradition. Alors, on a des moments où le Parti communiste allemand lance justement une insurrection dans deux villes qui se fait écraser tout de suite, et puis qui démoralise la classe ouvrière. J'ai pas tous les détails en tête. Mais le centre de la question, c'est que sans révolution ailleurs, il n'y a pas d'espoir. Alors ça, c'est ce qui va donner, après la révolution, la décision, pas seulement de Lénine, mais du gouvernement, de faire plein de concessions aux paysans. Ça, c'est la nouvelle politique économique, parce que notre boulot, c'est de tenir en attendant que ailleurs ça bouge. On ne peut pas gagner dans le pays. On peut tenir en encourageant, en exportant les idées pour qu'il y ait une révolution ailleurs. Et c'est ça ce qui va donner la base de la défaite de la révolution russe. Moi, je dis défaite. J'ai fait publier il y a 10 ans une brochure qui s'intitulait « Pourquoi l'échec de la révolution russe ?» Et j'ai regretté presque tous les jours depuis, parce que pour moi, ce n'était pas un échec, c'était une défaite. Et ce n'est pas la même chose. Parce qu'un échec, ça veut dire que, quelque part, on a mal fait, alors on a échoué. Bien sûr, il y a des éléments d'erreur. Mais une défaite, c'est qu'on est venu les écraser. Ce qui veut dire qu'on n'a pas à tout mettre à la poubelle et recommencer. Bon, oui, il y a des leçons, hein. Ils ont fait plein de conneries. Hein. Ça, c'est entre autres choses. Mais donc, la défaite, pourquoi la défaite? Donc, misère et destruction due à la guerre et la guerre civile jusqu'à la famine, l'invasion étrangère, la destruction venue des guerres, à cause des guerres, rendait le projet matériel du socialisme 100 fois plus difficile à mettre en place. Surtout, tenir la paysannerie, c'est-à-dire convaincre la paysannerie d'être de notre côté quand on n'a rien à leur donner. Bah, ça devenait vraiment le truc impossible. Et même dans cette période-là, il y a encore énormément de nouvelles idées, que ce soit artistiques, culturelles, sur l'éducation. Il y a Colanta qui travaillait sur l'éducation, elle a écrit toutes les expérimentations, une pédagogie super avancée. Il y avait vraiment une ambiance de nouvelle vie, de nouvelle société. D'ailleurs, même si après, ça devenait quelque chose complètement différent, au début, les samedis communistes, où tous les membres du parti bossaient le samedi pour donner un coup de main à l'économie, c'était une vraie campagne nationale d'enthousiasme. Voilà les causes de la défaite. Je vais passer assez brièvement, mais sur une question qui est intéressante, mais qui n'est pas au centre de notre débat, et c'est la question de la date de la défaite. Parce que là où ce que j'ai dit jusque maintenant, ça fait vaguement consensus parmi les différents courants du trotskisme, plus ou moins. L'idée, à partir de quel moment n'y avait-il plus rien à défendre en URSS, divise les révolutionnaires. Pour certaines personnes, jusqu'à la privatisation de la terre en 1991 ou même un peu plus récemment, il restait des acquis. Pour une bonne partie des trotskistes, c'est la chute du mur de Berlin, un peu la fin des acquis. Et moi, j'appartiens à un courant qui dit qu'après 28, il n'y avait plus rien à défendre. Non, c'est pas 28 parce que nous, on était là avant vous. C'est pas jeu. C'est l'idée que qu'est-ce qu'il a fait Staline? Alors Staline, il a abandonné l'idée de la révolution internationale en disant on va faire le socialisme. Moi, je vais le définir comme je veux, dans un seul pays, c'est-à-dire il met en place une révolution industrielle accélérée pour faire face à la concurrence économique et militaire de l'Occident. Alors, dans ce sens-là, je pense que l'argument est sérieux de proposer, de présenter le projet de Staline comme un projet capitaliste, c'est-à-dire qu'il devait accumuler une énorme capital pour pouvoir avoir la base pour une concurrence économique et militaire. Et le résultat, c'est des millions de travailleurs en camp de travail, une répression incroyable, la remise en place de toutes les oppressions dans les années 30. L'homosexualité, c'est illégal à nouveau. L'IVG aussi. On donne des médailles aux mères qui ont le plus d'enfants. Toutes les idées les plus rationnelles, pas les enfants, mais l'obligation de faire un certain nombre. Mais Staline, il a un certain génie pour lui, parce qu'il garde tout le vocabulaire et un peu de la légitimité de la révolution russe. Donc là, je l'ouvre comme question, mais je ne sais pas vraiment pour lancer tout le débat là-dessus. Alors la dernière question que je veux traiter, et je pense que ça va pour l'instant, j'ai presque fini, c'est la question, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé aujourd'hui? Parce que ce qui nous intéresse quand même, bon, moi je suis historien, j'adore ça, mais le but c'est quand même le socialisme, il serait temps qu'on en ait un peu pour nous. Alors ça c'est intéressant, maintenant bien sûr dans les discussions, dans les cafés, dans les bars, les gens disent vite, mais les choses ont changé depuis 1917, ce qui est un peu l'expression un peu bête quelque part, parce que les choses ont changé depuis le mois dernier aussi, les choses ont changé, il faut que ça. Et justement, le capitalisme, c'est la société où les choses changent le plus rapidement. La classe capitaliste se transforme. Il n'est pas du tout le même aujourd'hui. Bon, il n'est pas du tout le même. C'est beaucoup plus concentré international aujourd'hui, même qu'il y a 50 ans. La classe ouvrière se transforme, beaucoup plus de gens dans les bureaux, etc. Que les choses ont changé, c'est un peu normal. Mais alors, qu'est-ce qui a changé? C'est ça un peu la question. D'ailleurs, c'est intéressant, dans un de ses derniers discours, Lénine insiste devant l'international communiste, qu'ils ne veulent pas que les partis communistes dans d'autres pays copient l'exemple russe. C'est pas fait pour eux. Le problème, c'est de regarder la réalité de la conscience de classe, des conditions matérielles, et trouver une réponse pour gagner. Et c'est lui, donc en 22, qui insiste, il faut une direction nationale communiste dans chaque pays, pas à la porte du parti russe. Ça va venir plus tard. Alors, qu'est-ce qui a changé? Moi, je pense que effectivement, il y a des éléments qui ont changé, qui font la vie beaucoup plus facile pour nous les révolutionnaires. D'abord, les travailleurs qui n'ont que leur force de travail pour vivre, qui ne possèdent pas même la plus petite ferme au terrain, ça s'est explosé. Je pense je pense que c'est dans 10 ans qu'il va y avoir plus d'ouvriers chinois que de paysans chinois, même en Chine. Hein. Et donc, c'est-à-dire que le nombre de la classe qui a pu faire la révolution russe était énormément plus grand qu'en 17. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé aussi au niveau idéologique? C'est que malheureusement, les idées de la révolution russe ont beaucoup moins d'hégémonie dans le mouvement ouvrier qu'il pouvait avoir dans le mouvement russe. D'abord parce que l'idéologie bourgeoise est beaucoup plus sophistiquée, ils sont malins. Hein? Et alors, il y a beaucoup plus d'autres options qui apparaissent aux ouvriers. Troisième chose qui a changé, qui va dans notre sens, nous avons, et surtout en France, une classe ouvrière infiniment plus cultivée et plus éduquée qu'en 17. Ça peut être très très intéressant. Les gens, il y a beaucoup plus de gens qui savent lire, qui ont l'habitude de lire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de lire des ouvrages révolutionnaires. Mais ça donne une possibilité. D'ailleurs, en 1974, au Portugal, quand il y avait une situation révolutionnaire, le livre de Lénine, L'État et la Révolution, devenait un best-seller. Hein. Ça peut même... Je vais laisser un petit exemple pour dire. Alors, qu'est-ce qui n'a pas changé encore? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Bon, les inégalités n'ont pas changé, au contraire. Au niveau pourcentage, les inégalités, c'est-à-dire que la famine continue dans le monde. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui prétend que c'est parce qu'il n'y a pas assez de bouffe pour tout le monde. Sans doute, il y a un siècle, il y avait des gens, mais oui, mais quand même, si on fait le calcul, c'est tort d'ailleurs. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui prétend que c'est parce qu'il n'y a pas assez de bouffe que les gens ne bouffent pas. Donc il y a des inégalités encore plus criantes. L'autre chose qui n'a pas changé, c'est que l'explosion sociale vient tout seul. Ce n'est pas les révolutionnaires qui provoquent une explosion sociale. Mais l'organisation révolutionnaire est essentielle pour permettre d'utiliser le meilleur de l'expérience du mouvement ouvrier à travers l'histoire pour gagner. Parce que l'explosion sociale vient tout seul, et la classe dirigeante qui est malheureusement bien mieux organisée et dans l'ensemble souvent plus malin que nous, l'écrasement vient tout seul aussi. Alors l'organisation reste essentielle. Et dernière chose, la prise de pouvoir, dans le sens plein de choses, ne peut pas être évitée. On ne peut pas éviter de... Oui, bon, on ne va pas répondre. Est-ce qu'on va dissoudre l'armée? On va laisser ça. On verra. Non, non, il y a des choses absolument essentielles qu'il faut faire. Et pour moi, il y a encore besoin d'un parti. Maintenant, on en est très loin. Pour moi, un parti révolutionnaire en France, aujourd'hui, ça m'intéresse qu'à partir de 50 000, 100 000 personnes. Hein. Et on n'en est pas là. On n'en est pas là en partie à cause des mensonges du stalinisme qui ont plombé idéologiquement la classe ouvrière. C'est pour ça que moi, je suis très content de voir le nouveau parti anticapitaliste qui, pour moi, et je sais que ça ne fait pas forcément consensus, est une étape. Moi, je pense qu'il faudra un parti révolutionnaire de masse. Mais bon, il y a encore du boulot. Et là-dedans, il va falloir aussi clarifier qu'est-ce que c'est qu'un parti pour Lénine, parce que c'est pas du tout le monolithe qu'on a décrit. Déjà, Lénine, en 1902, avec Que faire, il écrit « Il faut de la centralisation, il faut de la discipline, il faut un journal national. » Parce qu'ils sont dans une position où ce qui arrive dans une ville moyenne, une ville normale, c'est qu'ils organisent une section du parti, c'est-à-dire 3 mois, ils sont tous en prison. Et alors le livre de Lénine, c'est « On est nul, on est trop amateur, comme ça on va tous se retrouver en prison, on va jamais rien faire. » Plus tard, quand en 1905, quand il y a la révolution, c'est ouvrir les portes du parti, on veut travailler légalement, etc. Encore plus tard, quand le parti est au pouvoir, dit on ne veut pas recruter trop de monde au parti. Maintenant qu'on est au pouvoir, il y a des carriéristes qui essaient d'entrer, on veut des conditions très strictes. Dans le parti léniniste, il n'y en a pas, ça change selon la situation. Et voilà, donc je vais essayer là-dedans. Après, moi je pense que notre boulot c'est d'élever le niveau du débat. Parce que des gens rejettent les idées de Lénine, c'est le droit. Mais il faut dire que 9 fois sur 10, ils les rejettent, ils n'ont pas la moindre idée de lesquelles il avait. Alors les rejeter, c'est un peu plus vite. Et c'est sûr que les anti-léninistes les plus bruyants, le Nouvel Observateur, etc., c'est une connaissance, on ne peut plus sommaire de ces idées.
Voilà, merci.
Yeah.